Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet.
Bonsoir à tous. Dans les informés, ce soir, ces manifestations en France contre le racisme et les violences policières. Beaucoup de réactions dans la classe politique. Silence pour l'instant du côté du président de la République. À 3 semaines des municipales, les Républicains espèrent revenir au centre du jeu. Quel impact le scrutin aura-t-il sur le fameux monde d'après? Le déconfinement, oui, mais à quelle vitesse? Retrouvailles en famille, c'était la fête des mères aujourd'hui. Aller trop vite, est-ce le risque d'un retour en arrière? Les jolies colonies de vacances cet été rimeront-elles avec cahiers ou encore dictées? Les vacances apprenantes promises par le gouvernement vont-elles vraiment se concrétiser? Pour débattre de tous ces sujets, nos informés ce soir, Céline Boisson, communicante, directrice associée de l'agence Nude, François Baudonnet, grand reporter à France Télévisions, auteur du podcast Au comptoir de l'info, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Regard, et François Ernenwein, rédacteur en chef à La Croix, notre partenaire du dimanche soir. Bienvenue à tous. Les informés, c'est parti. Plus de 23 000 personnes au total dans les différentes manifestations hier à Paris, Lille, Nantes, Rennes, Lyon ou encore Poitiers, pour n'en citer que quelques-unes. Manifestations contre le racisme et les violences policières après la mort aux États-Unis de George Floyd et l'enquête toujours en cours en France sur celle d'Adama Traoré il y a 4 ans. Et ce débat sur le racisme et la violence dans la police, écoutez Christian Jacob, le président du Parti Les Républicains, interrogé tout à l'heure lors du grand entretien avec CNews, Les Échos et Europe 1.
Bien sûr, sur la lutte contre le racisme, on ne peut pas trouver une cause plus noble que celle-ci.
Mais
ça n'existe pas. Des violences policières en France, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Alors, on a vu des violences de manifestants, mais jamais de violences policières en France.
Et du racisme dans la police, même si ce n'est pas toute la police,
mais
ça n'existe pas.
Il y a du racisme en France, comme dans beaucoup d'autres pays, comme dans tous les pays, et il faut lutter contre le racisme et le sanctionner. Mais on n'a pas une police raciste en France, ça n'existe pas.
Pierre Jacquemin, qu'est-ce qu'il nous dit là, Christian Jacob? C'est un mensonge, ça n'existe pas, les violences policières?
Oh, je crois que c'est finalement très révélateur d'un déni général, d'un déni politique d'abord, parce que le ministre de l'Intérieur lui-même a dit clairement que les violences policières n'existaient pas. Pour reprendre une métaphore qui nous est chère en ce moment, qui est la métaphore du milieu médical, pour soigner, il faut faire un bon diagnostic. Or, si les hommes et les femmes politiques ne font pas le bon diagnostic de ce qui se passe réellement dans la société, on peut pas lutter contre les phénomènes qui existent. Il s'agit pas de dire, et d'ailleurs je crois que personne ne dit que la police entière serait raciste ou serait ou générerait des violences policières. En l'occurrence, il existe des faits de violences policières et il existe des faits de violences racistes policières. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Et tant qu'on ne prendra pas à bras le corps ce sujet-là, on ne réglera pas le problème dans la police. Le problème de la police, il y a un problème de formation, il y a un problème aussi plus systémique aussi parfois avec des réflexes qui sont ceux de la police, parce qu'on en voit plus facilement la police dans les quartiers populaires faire des contrôles faciès. On sait tout ça, la France a été condamnée par plusieurs instances, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la Cour européenne de la justice des droits de l'homme. La France est condamnée, donc ces faits-là existent, et le déni de la classe politique sur ces sujets-là est absolument effroyable, d'autant plus que on semble découvrir aujourd'hui l'affaire Adama Traoré, qui date de plus de 4 ans maintenant. Bien d'autres collectifs de familles aujourd'hui, essayer de se mobiliser pour dénoncer justement des actes qui sont encore d'ailleurs sous le coup de la justice.
Et donc, mais est-ce que c'est du déni de la part de la classe politique, Céline Boisson, ou est-ce que c'est une communication finalement de la part de Christian Jacob, qui, comme certains syndicats policiers, finalement disent que ces violences policières n'existent pas, puisque ce serait finalement un usage de la force légitime ou en tout cas légale?
Moi, je pense que c'est un véritable déni, puisque déjà une partie n'en parle pas et une autre partie dit qu'il n'y en a pas. Donc, alors que on le sait très bien. Enfin, il dit que c'est un mensonge, mais moi je dis aussi que dire ça, c'est un mensonge. On ne dit pas que l'ensemble de la police est violente. On dit qu'il y a des violences dans la police et il faut pouvoir le reconnaître, l'admettre et régler le problème. D'autant plus que ce que nous venons de vivre ces dernières dernières semaines et ces derniers mois ont accru au niveau de la population française nos besoins de sécurité. Et c'est d'autant plus important d'écouter ce que les Français et ce que les Françaises disent aujourd'hui. Et un autre chiffre qui me semble important, c'est qu'un Français sur trois, c'est pas moi qui le dis, c'est des études qui sont faites, dont OpinionWay, 30% des Français pensent ne pouvoir faire confiance à personne pour améliorer la société de demain. Donc si on manifeste, si les Français et les Françaises manifestent pour revendiquer des choses et qu'elles ne se sont pas entendues et écoutées, ça va d'autant plus intensifier cette colère et cette incompréhension.
François Hernenbein, comment vous les comprenez, vous, ces propos de Christian Jacob aujourd'hui ?
Ben, je pense que il a estimé que pour asseoir sa base électorale, il avait besoin de dire ça. C'était nécessaire dans une stratégie de communication à l'avant-veille d'élections municipales où il espère avancer. Donc c'est un propos assez clientéliste et au fond c'est typiquement un déni. Mais je voudrais rappeler quand même, on évoquait à l'instant, mes confrères évoquaient un déni de l'ensemble de la classe politique, mais le déni n'est pas également partagé à gauche et à droite. La gauche a fait de la lutte antiraciste un de ses socles. Alors évidemment, il ne faut pas pratiquer l'amalgame avec ce qui se passe aux États-Unis, mais poser les questions qui sont posées dans les manifestations qui ont eu lieu samedi sont de bonnes questions. Et je pense que le silence du président de la République est un peu durable sur cette question.
Là, on va en reparler de ce silence. François Baudonnet, je vais vous donner la parole sur cette question du racisme, hein, que ce soit dans la police, mais dans la société de manière plus générale. Qu'est-ce qui a changé finalement en près de 40 ans depuis la marche des beurs dans les années 80?
Alors déjà, moi, ce qui me frappe dans les déclarations de Christian Jacob quand il dit que les violences policières n'existent pas, c'est que je pense que c'est quand même difficile de dire ça aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où des vidéos circulent très régulièrement, justement, quand il y a des violences policières. Vous savez même qu'il y a même une application spécifique là qui a été développée et qui est en train d'être mise en ligne justement pour dénoncer les violences policières quand elles existent. Donc dire les violences policières n'existent pas alors que on voit qu'elles existent, encore une fois, c'est sûrement pas majoritaire. Moi, j'ai par exemple couvert, j'étais en particulier un samedi de décembre dans les manifestations des Gilets jaunes et j'avais été frappé justement par le sang-froid des forces de police alors qu'il y avait en face une très grande violence. Donc je dis pas que les violences policières sont permanentes, mais il est évident qu'elles existent et avec les vidéos, avec les réseaux sociaux, tout le monde filme tout le temps. Donc aujourd'hui, je crois qu'on peut plus dire ça. Et ce qui a changé peut-être par rapport aux décennies précédentes, justement, c'est aussi ça. C'est-à-dire que maintenant, tout se sait très vite, en quelques minutes, c'est sur les réseaux sociaux, et c'est plus possible de nier la réalité.
Et on va continuer à en parler dans un instant, 20h10, le Fil Info sur France Info avec Frédéric Beignada.
Il s'agit du plus faible bilan de victimes du Covid depuis le 14 mars, avant le confinement. 13 nouveaux décès sur les dernières 24 heures et toujours moins de patients en réanimation. Le nombre total de décès s'élève désormais à 29 155 en France depuis le début de la pandémie. Brune Poirson annonce un durcissement des sanctions pour tous les abandons de déchets sur la voie publique, dont les masques et les mégots de cigarettes. L'amende sera portée à 135 euros contre 68 actuellement et cela pourrait aller beaucoup plus loin. Le projet de décret du gouvernement sera présenté à la mi-juin, indique la secrétaire d'État à la transition écologique. Dans l'actualité également, la vague de manifestations contre le racisme qui gagne l'Europe, de Bristol à Budapest en passant par Madrid et Rome. Des dizaines de milliers de personnes ont encore défilé aujourd'hui, prolongeant la vague de protestations déclenchée aux États-Unis par la mort de George Floyd, ce noir américain asphyxié par un policier à Minneapolis. L'émotion au Sable d'Olonne, une cérémonie en hommage aux trois marins disparus lors d'un sauvetage pendant la tempête Miguel il y a un an. C'est une étape importante dans la restauration de Notre-Dame de Paris, la dernière phase de la délicate opération de démontage de l'échafaudage de la flèche de la cathédrale commencera demain. L'échafaudage a résisté à l'effondrement de la flèche, mais il a été déformé par la chaleur de l'incendie en avril 2019.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
sur les violences, sur le racisme, sur les manifestations qui se sont déroulées hier dans de nombreuses villes en France. Que disent Emmanuel Macron et son Premier ministre, Édouard Philippe? Eh bien, rien, déplore sur France Info le président d'honneur de la LICRA, Alain Jakubowicz.
On a besoin d'une beaucoup plus grande transparence sur ce qui se passe, et puis surtout que nos politiques arrêtent de se cacher derrière leurs petits doigts. Vous savez, moi, je suis assez heurté par le fait que notre président de la République et notre Premier ministre aujourd'hui sont taisants sur ce qui se passe, y compris sur ce qui se passe aux États-Unis. Tous les chefs d'État en Europe et dans le monde se sont manifestés, pas les nôtres.
Ils se cachent derrière leurs petits doigts, nos dirigeants, Pierre Jacquemin.
C'est vrai qu'on attend une parole au plus haut sommet de l'État, compte tenu de ce que la mobilisation est en train de faire émerger. Cette mobilisation, le gouvernement serait absurde et même ce serait une erreur politique de ne pas y répondre. Il se passe quelque chose d'assez extraordinaire en France, mais partout dans le monde, et cette mobilisation-là doit effectivement être portée, ou en tout cas soutenue, par une voix politique qui est une voix politique forte, celle du président de la République. Je note quand même qu'il y a quand même quelques avancées, c'est-à-dire que on dit souvent les mobilisations ne mènent pas à grand-chose. Je pense qu'elles font la démonstration, ces mobilisations, qu'elles mènent à quelque chose de très concret. La mobilisation en solidarité avec la famille d'Adama Traoré, avec la sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré à sa tête, l'avocat a enfin pu confirmer que deux des témoins de la procédure de l'intervention de la police allaient pouvoir être entendus, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant. Donc la mobilisation commence à faire bouger, à mon avis, un certain nombre de choses, mais je crois que effectivement une parole politique forte est attendue. Encore faut-il que cette parole soit une parole qui soit une parole qui reconnaisse ce qui se passe dans la société. Il ne s'agit pas, pour le ministre, comme le ministre de l'Intérieur le fait, de ne pas reconnaître qu'il n'existe pas de violence policière en France. Et quand on entend la voix de Camilla Jordana qui essaie de faire passer un message qui est de dire qu'elle ne se sent pas en sécurité quand elle voit la police, ça a été dit tout à l'heure par Céline Boisson. Oui, je pense qu'il y a une certaine méfiance, une défiance à l'égard de notre police, et que donc je pense que la parole du président de la République doit s'accompagner d'un vaste plan, d'une manière de repenser les doctrines policières telles qu'on les voit aujourd'hui, avec ce fameux contrôle au faciès, les plaquages ventraux, enfin toutes les méthodes qui sont aujourd'hui décriées, condamnées par plusieurs cours de justice. Je pense que cette parole politique doit intervenir, j'espère qu'elle va intervenir très vite.
Qu'est-ce qu'ils attendent pour s'exprimer, le Premier ministre ou le président de la République, Céline Boisson?
Bah, je pense que déjà leur mode de communication a toujours été celle-ci, c'est-à-dire ne pas être dans la surréaction, mais se laisser le temps d'agir et finalement se laisser le pouvoir aussi de décider quand ils voulaient prendre la parole. Donc finalement, ce temps où ils ne s'expriment pas ne m'étonne pas. Maintenant, ils vont, je crois, ne pas tarder à le faire. Effectivement, je suis d'accord avec Pierre Jacquemin, il faut que cette prise de parole soit forte et concrète. Et je pense qu'ils doivent faire en sorte de réinstaller un lien de confiance entre la police et la population. Donc finalement, le fait qu'ils communiquent pas tout de suite, moi ça me semble, ça ne m'étonne pas. Maintenant, quand ils le feront, j'espère qu'ils le feront extrêmement concrètement.
Alors,
avec des actions fortes.
Il y en a qui, eux, ne se cachent pas du tout. Hein. Ce sont les élus du Rassemblement National qui, hier soir, ont commenté, certains élus ont commenté une vidéo sur Twitter où l'on voyait des militants de la Ligue de Défense Noire Africaine s'en prendre assez violemment à l'État, qualifié notamment de terroriste, de colonialiste. Bruno Gollnisch, sur Twitter, les a invités à retourner dans leur pays. Julien Odoul a commenté la vidéo avec ces phrases « Partez vite, partez loin ». En 40 ans, au FN devenu RN, rien n'a changé non plus, François Baudonnet.
Je crois que le Rassemblement National communique d'une façon qui n'est pas très surprenante par rapport à ça. Et voilà, c'est une forme de récupération politique de ce qui se passe. Et je pense qu'il faut pas peut-être y attacher plus d'importance que cela.
Sur les solutions à trouver, une nouvelle manifestation à l'appel des SOS Racisme est prévue mardi soir, François Baudonnet. Il va falloir, à un moment ou un autre, se mettre autour de la table et trouver des solutions autour de ces questions de violence, de racisme.
Oui, sûrement. Ça, je crois que les autres intervenants l'ont dit. Je pense que ça va être important qu'il y ait des choses très concrètes. Christophe Castaner avait dit qu'il n'accepterait aucune parole, aucun acte raciste. Mais tout ça, on sent que c'est un peu du domaine du déclaratif. Il va falloir qu'effectivement il y ait des choses extrêmement concrètes. Et plus largement, je dirais, au-delà même, évidemment, du racisme qui est important, mais je crois qu'il faut qu'il y ait un contrat de confiance qui soit renoué entre toute la population et la police. police française. Moi, je rêve d'une police qui soit exemplaire, qui soit respectueuse. Et on le voit au quotidien parfois dans les rues. On voit par exemple des policiers qui ne sont pas en intervention et qui vont pourtant passer au feu rouge, qui vont avoir des attitudes qu'ils ne devraient pas avoir parce qu'ils ne sont pas en intervention. Et je crois que tout ça, ça crée, et encore une fois, ils ne sont pas tous comme ça, c'est pas tout le temps comme ça, mais ça crée quand même un sentiment, parfois même un ressentiment vis-à-vis des policiers. Et je crois qu'il faut que tout ça change parce que les policiers sont effectivement là pour nous protéger.
L'époque de 2015, l'époque post-attentat, François Ehrenweil, où l'on applaudissait les policiers devenus de véritables héros de la nation, cette époque, elle paraît bien loin aujourd'hui.
Ben, elle est loin, oui, mais ça serait bien qu'on retrouve ce climat de confiance, et c'est ça l'objectif. Le problème est ancien, c'est un problème philosophique qui existait déjà chez les Romains. Qui gardera les gardiens? Je pense qu'effectivement, il faut des procédures de contrôle de l'action de la police renforcées par rapport à ce qui existe aujourd'hui, et surtout des sanctions exemplaires en cas de dérapage, c'est-à-dire que quand quelque chose ne fonctionne pas bien, on est aussitôt une réponse des autorités administratives, des autorités policières, pour éviter la répétition d'actes condamnables.
C'est déjà ce dont se plaignait Emmanuel Macron avant même qu'il ne soit élu, deux jours avant son élection, avant son arrivée à l'Élysée, dans un entretien donné à Mediapart. Voilà, il s'étonnait que, eh bien, il n'y ait pas toutes ces remontées. Pierre Jacquemin, qu'est-ce qui a changé? Comment faire finalement pour faire bouger les choses à ce niveau-là?
Bah, je pense que d'abord, il faut une prise de conscience. J'ai le sentiment qu'elle est en train d'émerger. Vous savez, j'écoutais Rokhaya Diallo tout à l'heure, elle expliquait qu'effectivement, en 1983, on avait eu la marche pour l'égalité et contre le racisme. Cette marche avait été directement inspirée de la lutte de Martin Luther King. Et aujourd'hui, on a le sentiment que ce qui s'est passé aux États-Unis a donné une nouvelle forme de résonance aux associations qui militent au quotidien dans les quartiers. Et je pense évidemment à l'association qui veut rendre justice à Adama Traoré, mais il y en a bien d'autres, celle d'Amin Bentoutsi, justement celle qui a créé cette application pour encourager les gens à filmer les cas de violence policière. Mais encore une fois, je pense que il y a des pratiques à changer, il y a des formations sans doute à faire évoluer au sein même de la police. Et puis je pense aussi que il y a une nécessité de dénoncer ce qui j'entends, les termes sont parfois violents, mais il y a un racisme d'État. Je dis pas qu'il y a que ce serait il y a quelque chose dans l'ordre systémique. Il y a une manière d'appréhender notre histoire coloniale aussi, qui fait que on a des réflexes à gauche comme à droite. Parfois il y a un racisme incorporé, que ce racisme là doit être dénoncé, et on doit travailler tous ensemble, collectivement, à lutter contre le fait qu'aujourd'hui une partie la classe médiatique, la classe politique, même si j'aime pas effectivement le terme de classe, mais c'est vrai que la visibilisation des personnes noires ou des personnes dites racisées est un problème en soi. Aujourd'hui, on est quatre à débattre autour de la table, même si on n'est pas vraiment autour de la table. Il n'y a pas une personne noire pour poser les termes du débat tel qu'elle ou il l'entendrait. Et je dis pas que je fais pas une accusation, mais c'est un fait qui est systémique à la tête des entreprises, à la tête des médias, dans les médias eux-mêmes, les personnes concernées, en l'occurrence, ne sont pas invitées à débattre. Et c'est important aussi de rendre visible ce débat-là, et d'autant plus dans une période où ce sont les personnes concernées qu'on devrait entendre le plus.
Et les informer à distance, donc, reviennent dans un instant. Pierre Jacquemin, 20h20, le Fil Info d'abord avec Frédéric Beignada.
Le chiffre du jour, il est symbolique. Le cap des 400 000 morts dus au coronavirus dans le monde a été franchi depuis le début de la pandémie en décembre dernier en Chine. Le virus continue de progresser de manière fulgurante dans les pays d'Amérique latine, auxquels le pape François a exprimé aujourd'hui sa compassion. Masques, mégots de cigarettes, dépôts sauvages d'ordures, bientôt sanctionnés par une amende allant de 135 à 730 euros. Le projet de décret du gouvernement sera présenté mi-juin par Brune Poirson. Les violences policières en France n'existent pas, affirme Christian Jacob. Le président des Républicains apporte son soutien aux forces de l'ordre au lendemain d'un samedi de mobilisation en France qui a rassemblé plus de 20 000 personnes. Donald Trump ordonne le retrait de la garde nationale de Washington, mobilisée pour protéger la Maison Blanche après les manifestations contre le racisme et les violences policières. Deux semaines après la mort de George Floyd, il estime que la situation est maintenant parfaitement sous contrôle. Nicole Belloubet veut créer un comité de pilotage national afin de développer les ordonnances de protection dont bénéficient les femmes victimes de violences conjugales. C'est ce qu'elle annonce dans un entretien au journal du dimanche. Deux jeunes hommes mis en examen hier soir pour viol en réunion à Mont-de-Marsan. C'est une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années qui a porté plainte. Le viol aurait eu lieu il y a moins d'une semaine dans un lieu public.
France Info. Et tout est plus clair.
20h-21h, les informés, Victor Mattey.
Et Pierre Jacquemin du magazine Regard nous parlait à l'instant de l'existence d'un racisme d'État. Vous partagez cette opinion, François Baudonnet ?
Racisme d'État, ça me paraît un peu fort, non ? Je crois pas. En tout cas, dans la police, on le disait tout à l'heure, qu'il y ait des violences policières et qu'il y ait des actes racistes et qu'il y ait des policiers qui soient racistes, ça existe. Après, à dire que c'est un racisme d'État, ça me semble un peu exagéré. Mais ce qui est vrai également, et je crois que Pierre Jacquemin le soulignait, c'est vrai qu'il y a quand même dans notre pays, en fait, les personnes noires sont quand même assez largement invisibles à tous les postes de responsabilité, que ce soit dans les grandes entreprises, peut-être dans les administrations, etc. Et donc oui, la France, de ce côté-là, encore une fois, sans parler de racisme d'État, mais la France a un souci, a un problème, et elle ne donne pas suffisamment de place à ces personnes.
Pierre Jacquemin, je crois que vous voulez préciser vos propos sur le racisme d'État.
Très rapidement, parce que c'est vrai que c'est un terme qui ne fait pas consensus, donc c'est peut-être pas le bon terme à utiliser, mais quand même, quand on voit que la Cour européenne de justice des droits humains, les Nations unies dénoncent des pratiques au sein de l'administration française, comme par exemple celles de pratiques discriminatoires qui sont, elles, pour la peine systémique, contre des jeunes populations, notamment dans les quartiers, on appelle ça du harcèlement discriminatoire. C'est en cela qu'aujourd'hui, il y a des méthodes, il y a des réflexes, il y a même des recommandations, hein, puisqu'on l'a vu pendant la période du confinement, la stratégie qui a été celle du ministère de l'Intérieur, a été de renforcer les contrôles de police dans les quartiers populaires. C'est cette pratique-là qui est à dénoncer. Alors le racisme d'État peut-être ne fait pas consensus. Moi, je pense qu'il y a une forme de racisme d'État et qui doit être dénoncée par ces pratiques discriminatoires qui sont vraiment, elles, pour la peine systémique.
On parlait tout à l'heure des propos de Christian Jacob. Une autre figure des Républicains s'exprime aujourd'hui, François Baroin, dans les colonnes du journal du dimanche. Il assure qu'il fera connaître sa position. Elle est très attendue hein, dans son camp pour 2022, cet automne. En attendant, ce sont les municipalités dans 3 semaines. Et là, le président de l'Association des maires de France nous dit que la droite en termine avec un long cycle de défaites. Cela veut dire quoi, Céline Boisson, que ces municipales, ce second tour, ce sera forcément la victoire de la droite ?
Bah, en tous les cas, on peut penser que lui le pense et qu'il l'espère. Donc après, on verra bien ce qui se passera dans quelques semaines lors des municipales. Je pense que beaucoup de choses ont... En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que depuis le mois de mars, hein, je crois que c'était le dimanche 15 mars, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que beaucoup de gens ont pris conscience et ont revu en fait leurs priorités. Et en tous les cas, ce qu'on peut penser, c'est que le vote peut évoluer et que les résultats du second tour seront certainement différents que s'il s'était passé 2 semaines après le 15 mars.
Cela veut dire aussi, François Hornenwein, qu'avec des résultats qui pencheraient à droite, le gouvernement aura du mal à tourner à gauche, si je puis dire. Un remaniement se prépare, semble-t-il, pour juillet. Les résultats du 28 juin vont être déterminants.
Bah, tout à fait, oui. Dans les urnes, on lira quelques grandes orientations. Mais... les urnes ne seront pas un immense révélateur du point de vue de l'action du gouvernement et son positionnement politique. LREM, La République en marche, a passé des alliances à droite majoritairement et très majoritairement pendant l'entre-deux-tours. Et cette donne prépare d'ailleurs l'ivresse des Républicains au soir du second tour. Aujourd'hui, c'est constitué une sorte de bloc dont on ne sait pas s'il est très cohérent, mais qui rassemble La République en marche et LR et les Républicains. Et la suite, cette alliance même et les résultats des élections rendront très difficile un changement de cap ou un changement de pied pour l'exécutif. Je pense que le paysage qui est en train de se dessiner annonce déjà les choix qui seront faits après les municipales concernant le remaniement et la politique qui sera conduite.
Cela veut dire, Pierre Jacquemin, que le monde d'après ne verra pas le jour.
Il faudrait essayer d'être un tout petit peu optimiste, mais je crains qu'effectivement, quel que soit le remaniement, il n'y aura pas de changement de ligne politique de ce gouvernement. Mais quand même, sur les municipales, moi j'ai le sentiment, je sais pas si c'est bien ou pas de maintenir les élections de ce second tour, mais c'est quand même le scrutin Qui sans doute fait le plus sens pour les Français, l'échelon municipal, c'est la confiance accordée à un maire, à quelqu'un vers qui on se tourne facilement. Et j'ai le sentiment que cette municipale, ce cru 2020, va démonétiser d'une certaine manière le scrutin municipal. Je dis ça parce que d'abord, c'est vrai que le premier tour a été très largement connu pour son abstention, et j'ai peur que le second tour soit à peu près similaire, et ça serait fort dommage. Mais quand même, les enseignements qu'on peut retenir au moins de ce premier tour, c'est que sans doute ceux qui vont s'en sortir le mieux, ce sont ceux qui ont déjà un ancrage, à savoir les socialistes et les républicains de l'autre, et que sans doute c'est ce retour du vieux monde peut-être qui est peut-être le plus surprenant, mais surtout c'est aussi une leçon pour je pense le Rassemblement National, la République en Marche et la France Insoumise, qui les trois formations politiques sont toutes incarnées par une personnalité forte, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, et ces trois là on fait la démonstration qu'ils n'avaient pas d'ancrage local, d'ancrage territorial, et que je pense que c'est une des leçons aussi de cette municipale, c'est que la politique ne peut pas se faire sur la base d'un nom ou seulement d'un chef, et qu'elle doit se faire sur des stratégies et des dynamiques collectives. Et c'est aussi sans doute pour ça que le Parti Socialiste et les Républicains, mais aussi d'ailleurs le Parti Communiste, qui quand même conforte aussi son assise locale, font la démonstration que dans le vieux monde, il y a des partis politiques qui font vivre aussi la vie au niveau local, et qui ont su d'ailleurs, pour la peine, pour beaucoup d'entre eux, faire la démonstration qu'à l'échelon local, on savait régler des grands enjeux comme l'enjeu sanitaire ou l'enjeu écologique ou l'enjeu démocratique en réinventant, en faisant des propositions qui devraient être des propositions d'ordre national mais qui s'opèrent au niveau local. Donc voilà, j'ai un peu le sentiment d'un gâchis quand même sur un scrutin qui pour moi fait vraiment sens chez les Français.
Et on entendra la réaction à ce sujet de François Baudonnet dans la deuxième partie des Informés. Ce sera dans un instant. François Baudonnet, Pierre Jacquemin, Céline Boisson et François Ehrenwein. Vous restez avec nous, il sera encore question des municipales également, du déconfinement et des vacances apprenantes pour cet été. La deuxième partie des Informés dans un instant.
France Info, première plateforme d'information consultée au quotidien.
France Info, et tout est plus clair.
L'info dans un instant, mais d'abord le temps pour demain, Jean-Michel Golinski.
Une météo encore très éloignée du beau fixe ce lundi, dans une ambiance toujours fraîche, compte tenu de la saison, avec 17 à 21 degrés l'après-midi sur la plupart des régions, jusqu'à 23 ou 25 du sud-est à la Corse, mais parfois à peine 15 degrés sur les bords de la Manche. Les nuages les plus nombreux seront pour le piémont pyrénéen et en matinée du nord de la Loire à la Belgique. Sur cette moitié nord du pays, l'évolution sera favorable en cours d'après-midi. Autour de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane modérés ainsi que les rafales d'ouest à 60 km à l'heure sur la Corse vont maintenir les nuages à l'écart. Enfin, sur le reste du pays, ciel assez bien dégagé aux premières heures, mais devenant plus variable en journée, avec tantôt une averse éparse, voire un orage en montagne.
Jean-Michel Golinski, Météo France. La suite des Informés dans un instant, juste après l'info. Bienvenue à tous, il est 20h30. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Victor, bonsoir à tous. La vague de manifestations contre le racisme gagne l'Europe, de Bristol à Budapest en passant par Madrid et Rome. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue comme d'autres l'ont fait hier à Washington. 3000 personnes selon la préfecture assemblées à la mi-journée devant l'ambassade des États-Unis à Madrid, en Espagne, à Rome. Une manifestation a réuni des milliers de jeunes. Et puis à Bruxelles, des affrontements ont opposé ce soir des casseurs à la police après un cortège auquel ont pris part près de 10 000 personnes. Bravant l'interdiction des autorités, cette fois des milliers de Britanniques ont manifesté également à Londres. En Thaïlande, enfin, où une manifestation antiraciste avait été interdite, plus de 200 personnes ont participé à une protestation virtuelle sur Internet par un site de conférence à distance. En France, alors que des milliers de personnes ont donc manifesté hier, 23 000 selon les chiffres du ministère, le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, appelle sur France Info le Premier ministre et le chef de l'État à s'exprimer et à dire comment il compte régler ces problèmes de racisme dans la police. Dominique Sopo qui appelle à un nouveau rassemblement mardi soir à Paris, place de la République. À l'étranger, la mort d'un Palestinien autiste tué par erreur par un policier israélien à Jérusalem qui crée beaucoup d'émoi dans les territoires. Le premier ministre Benjamin Netanyahou parle d'une tragédie et présente ses condoléances à la famille endeuillée. Enfin, la dernière phase du démontage de l'échafaudage de la flèche de Notre-Dame de Paris commencera demain lundi. L'opération est pour le moins délicate puisque l'échafaudage de 200 tonnes a résisté, mais il a été déformé par la chaleur de l'incendie d'avril 2019 alors que la flèche de la cathédrale était en restauration. L'opération devrait se dérouler tout l'été. 20h32 sur France Info.
Et tout de suite la suite des informés. Merci Emmanuel Langlois.
20h, 21h, les informés, Victor Mattet.
Ils sont toujours avec nous, nos informés du dimanche soir. Céline Boisson, communicante, directrice associée de l'agence Nude. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Regard. François Ernenwein, rédacteur en chef à La Croix. Et François Baudonnet, grand reporter à France Télévisions, auteur du podcast Au comptoir de l'info. François Baudonnet, je crois que vous vouliez réagir sur ce second tour des municipales le 28 juin.
Oui, absolument, parce que j'ai un peu le sentiment que ces élections municipales, quels que soient les vainqueurs, qu'il y aura forcément, eh bien ce sont des élections qui sont en fait perdues pour tout le monde. Et au niveau des deux tours, le premier tour, faut se souvenir dans quel contexte il a eu lieu. C'était le début du confinement. On nous annonçait que nous devions rester chez nous et à la fois, on nous disait qu'il fallait aller voter, donc avec un taux d'abstention important, etc. Donc ce premier tour a été un premier tour absolument démonétisé, si je puis dire. Et le deuxième tour, j'ai le sentiment qu'il le sera aussi. Alors on est en train de sortir de la crise du coronavirus, mais un peu pour la même raison, je crois qu'on a un peu la tête ailleurs, il n'y a pas de vraie campagne, c'est d'ailleurs pas physiquement possible de faire de vraies campagnes électorales dans les villes où il y a un second tour, et donc ce second tour, lui aussi, eh bien, perd de son pouvoir, et je trouve ça dommage parce que, comme on le rappelait tout à l'heure, le maire est la personne que les Français apprécient le plus, et ces élections municipales chaotiques risquent peut-être de délégitimer un petit peu les maires de France.
C'est un scrutin perdu, François Ernenwein ?
Mais moi, je pense que, à travers tous les flottements qu'on vient de décrire très justement, il y a quand même quelque chose de solide qui est apparu à l'occasion de ces municipales. C'est le retour du clivage droite-gauche, de type assez classique. D'un côté, un bloc, la droite alliée à La République En Marche, et de l'autre côté, les candidats de gauche et écologistes qui tentent de s'unir. Et on voit bien que, sur une lecture longue, c'est la fin du mythe ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche, qui était porté par Emmanuel Macron. On va attaquer la phase 3 du quinquennat sur une recomposition politique majeure, me semble-t-il.
Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à ce message du professeur Jean-François Delfrécy, à la tête, vous le savez, du Conseil scientifique, avec cette phrase « Laissons les gens vivre ». En gros, il appelle l'exécutif à revoir les modalités du déconfinement. Il faut accélérer les choses, selon vous, Céline Boisson ?
Bah ouais, clairement, il faut vraiment accélérer les choses. Pour plusieurs raisons. C'est un, pour aider l'économie à repartir. Je pense que si le confinement a eu lieu, c'est qu'il était certainement obligatoire pour alléger les urgences et puis alléger aussi le stress et le travail du personnel soignant. Et nous l'avons fait. Maintenant, il faut sauver les entreprises, faire repartir les entreprises. Sinon, j'ai vraiment peur, moi-même entrepreneur, qu'on laisse beaucoup de gens sur le carreau. Je parle des salariés, je parle des chefs d'entreprise et je parle aussi des indépendants dont on parle très peu, mais qui sont parfois sans travail depuis des semaines, voire des mois, et qui attendent encore que le travail revienne et qui reviendra certainement pas avant septembre. Donc on risque de mettre en péril énormément de gens. Je crois qu'il y a 50% de chômage partiel aujourd'hui en France, hein, donc ça veut dire une activité vraiment en berne et en décroissance réelle et totale. Je le vis tous les jours.
Cela veut dire qu'après notre santé, après les préoccupations sanitaires, c'est vraiment l'économie là qui a repris le dessus, Pierre Jacquemin.
Oui, et j'avais envie de dire justement que s'il faut aller vite maintenant sur le déconfinement, c'était surtout pour relancer, justement, non pas forcément mettre en un la question économique, mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est la question scolaire, en fait, la question de l'éducation. Je trouve qu'un certain nombre de décisions ont été prises, sans doute, de manière très concertée, et d'ailleurs pas si concertée que ça, parce que je crois que, justement, le conseil scientifique avait plutôt exigé, en tout cas recommandé au gouvernement de ne pas organiser de rentrée avant septembre. Mais je crois que s'il y a un endroit où il y a bien lieu d'être accéléré le déconfinement, c'est probablement à l'école. Après, évidemment, si...
Et c'est ce que dit d'ailleurs désormais le conseil scientifique, hein, qui a complètement changé d'avis, finalement.
Et c'est ce que dit désormais, exactement, il propose d'accélérer la réouverture des classes. Mais évidemment, la question économique est majeure et centrale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le jour J, le jour d'après, les Français, la plupart des Français se posent la question de leur emploi et de savoir s'ils vont pouvoir être maintenus dans leur emploi, dans leur activité, si leur entreprise va être en capacité de tenir, de rouvrir et de décrocher des nouveaux contrats. Et je pense que c'est ça la principale préoccupation. Cette semaine va être une semaine assez décisive aussi, où il y a un sommet je crois qu'on en parlera peut-être plus tard, mais entre le MEDEF et les partenaires sociaux, pour savoir aussi comment on fait en sorte de maintenir les gens dans l'emploi tout en essayant de développer l'activité économique. Il y a la question du tourisme qui va arriver aussi cet été. Je pense qu'il est sage, et comme le dit Jean-François Delfraissy, oui, il faut laisser les gens vivre. Je pense que on est tous très inquiets de cette société où on est les uns derrière les autres de manière très suspicieuse. Moi, ça m'inquiète beaucoup, et je pense qu'il est temps de reprendre de certaines habitudes. Maintenant, je pense que les gens ont acté les principes des gestes barrières. Je pense que ça sera très utile pour la suite, pour les prochaines épidémies, y compris d'ailleurs pour la grippe, hein, de manière générale. Je disais ça des médecins. Donc je pense qu'on a les conditions aujourd'hui réunies pour avancer un peu plus vite. Oui.
Vous êtes d'accord, Céline Boisson ?
Oui, je suis d'accord sur la partie scolaire et les étudiants, sachant que les écoles ont perdu un grand nombre des étudiants dont on n'a aucune nouvelle. Et je trouve ça extrêmement inquiétant. On va accumuler des lacunes. On parle de reprendre l'école maintenant, mais il y a aussi la rentrée de septembre. C'est-à-dire tout le retard qui sera accumulé pendant ces derniers mois. Il va falloir les rattraper en septembre. Il y a la question des bacheliers aussi, enfin ceux qui ne vont pas passer leur bac et qui va être basé sur le contrôle continu, qui va être encore une inégalité de plus, parce qu'on sait que l'égalité justement d'avoir son bac se passe par l'épreuve et que chacun ait la chance le même jour pour le même sujet. Donc tout cela fait qu'il y a une urgence aussi sur cette génération, sur notre jeunesse qui sont nos actifs de demain, sur lesquels il faut investir du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent.
L'école, les restaurants, les entreprises, il faut accélérer ce déconfinement dans tous les secteurs, François Ehrenbein.
Ben, ça a été très bien dit par mes confrères, il y a un certain nombre d'urgences et la souplesse est nécessaire. Mais je voudrais recadrer le débat quand même et préconiser un déconfinement tranquille. Effectivement, il y a tous les enjeux économiques, scolaires, dans le monde du spectacle sportif ou culturel, etc.
François Ehrenbein, est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Bon, on va vous retrouver dans un instant, et puis le temps de marquer une pause. Tiens, le fil info qui arrive à 20h40, on va retrouver Emmanuel Langlois.
C'est le bilan quotidien le plus faible depuis le 14 mars. Avant le confinement, la France recense 13 nouveaux décès dans les hôpitaux en lien avec l'épidémie de Covid-19 ces dernières 24 heures. D'après le site internet du gouvernement, le nombre de patients en réanimation continue lui aussi à baisser. Le chiffre des EHPAD ne sera communiqué que demain lundi. Aux États-Unis, en revanche, le bilan du Covid-19 dépasse désormais les 110 000 décès. Il approche les 2 millions de cas. L'Alabama, la Caroline du Sud et la Virginie ont tous vu le nombre de nouveaux cas augmenter de plus d'un tiers ou plus au cours de la semaine qui s'achève. Agressions sexuelles, bagarres et course-poursuite et des coups de feu à Nantes la nuit dernière au Hangar à Bananes, un lieu festif de l'île de Nantes. Un mineur est en garde à vue, 3 personnes sont en fuite. Colin Powell lui annonce son soutien au candidat démocrate Joe Biden. L'ancien secrétaire d'État dénonce les mensonges de Donald Trump. Il devient ainsi le premier élu républicain républicain d'envergure à soutenir publiquement le rival de Trump à l'élection présidentielle de novembre aux États-Unis. Et puis l'île de Malte a finalement autorisé hier soir le débarquement à La Valette de plus de 400 migrants venus de Libye. Ils étaient bloqués en mer pour certains depuis plusieurs semaines. Plus de 2 tonnes de cocaïne saisies dans le port de Rotterdam aux Pays-Bas. La drogue se trouvait dans une cargaison de bananes en provenance d'Équateur. Elle était destinée à une entreprise en Hongrie. Valeur marchande estimée à plus de 150 millions d'euros.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Victor Mattet.
Et la bonne nouvelle, c'est que l'on a retrouvé François Hernenwein. Je vous laisse la parole, François, je vous laisse terminer. Vous étiez en train de recadrer notre débat sur le déconfinement.
Oui, je pense que les urgences imposent d'introduire de la souplesse dans le système, mais je rappelle que l'horizon prochain, c'est le 22 juin. Donc, acheminons-nous tranquillement vers le 22 juin, avançons tranquillement dans ce déconfinement, mais ne précipitons pas les choses au risque de perdre le bénéfice des stratégies prudentielles qui nous ont occupés pendant près de 3 mois, là.
Je
pense que ça serait une erreur d'aller trop vite.
D'ici le 22 juin, d'autres règles seront sans doute assouplies. C'est déjà le cas dans les maisons de retraite, les EHPAD où les droits de visite sont élargis. Mais le confinement a fait beaucoup de mal aux personnes âgées dépendantes. Pour cette fête des mères, c'était ce dimanche, beaucoup de familles se revoyaient pour la première fois. Écoutez, beaucoup d'émotions pour cette femme, Betty Descoings. Elle vit à Dijon et avant de revoir sa mère de 86 ans, elle se posait pas mal de questions.
En fait, c'est un sentiment très très ambigu. Je suis impatiente de la revoir, je suis heureuse de pouvoir aller la voir, mais j'ai aussi cette crainte de voir ma maman diminuer, alors que la maman que j'ai laissée il y a 3 mois, c'est plus la maman que je vais retrouver aujourd'hui, puisqu'elle a perdu pratiquement toute sa marche. Elle a des difficultés à articuler, à trouver ses mots. Maintenant, elle a beaucoup perdu, le fait d'avoir perdu le peu de contact qu'elle avait. Je peux pas la prendre dans les bras, mais c'est surtout le fait de la voir, le fait de plus revoir ma maman dans l'état où je l'ai laissée il y a 3 mois, c'est angoissant.
François Baudonnet, vous avez beaucoup travaillé pour France Télévisions depuis le début de la crise sur les EHPAD, sur les maisons de retraite. Qu'est-ce qui vous marque, qu'est-ce qui vous parle forcément ce témoignage?
Oui, bien sûr, c'est un témoignage qu'on a pu entendre beaucoup. Il y a beaucoup de personnes âgées qui, effectivement, pendant ces 3 mois de solitude, ont complètement décroché. Donc, il est important que ces personnes-là puissent revoir leur famille très vite. Alors, on le rappelait, vous le rappeliez tout à l'heure, Victor, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Donc, il y a eu un léger assouplissement des conditions de visite. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin? Il y a beaucoup de familles qui trouvent, par exemple, que c'est très compliqué encore d'aller rendre visite à leurs proches dans un EHPAD. Et c'est vrai que souvent, il faut faire une démarche par écrit, par Internet. C'est limité à 2 personnes. Il y a encore vraiment des règles sanitaires extrêmement strictes. On ne peut pas toucher la personne âgée, etc. Alors autant, je crois qu'on peut-être aller déconfiner un peu plus vite dans les écoles parce qu'on sait que les enfants ne sont pas malades du coronavirus. Autant dans les EHPAD, je crois qu'il faut quand même avoir une assez grande prudence parce que moi j'ai eu des témoignages aujourd'hui justement de responsables, de médecins coordonnateurs en EHPAD qui me disaient quand les familles arrivent, évidemment très vite les masques tombent au sens propre, hein, elles enlèvent leurs masques, c'est difficile de garder une distance physique avec une personne, sa mère qu'on n'a pas vue depuis des mois, et donc ils nous disent attention, c'est au risque de deuxième vague. Alors évidemment, tout le monde souhaite que ça ne se produise pas. On a très envie, et toutes les personnes âgées ont très envie de revoir leur famille et réciproquement. Mais je crois que les EHPAD, c'est un peu un univers particulier. On sait que quand le virus est rentré dans un établissement, ça va ensuite très vite. Donc autant dans les autres parties de l'économie, je crois que la situation est en bonne, on peut peut-être déconfiner plus vite. Dans les EHPAD, je crois qu'il faut être prudent.
Et cela illustre en tout cas ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre Jacquemin, sur ce difficile finalement retour des choses, le juste milieu entre retrouver du lien social aujourd'hui et en tout en restant prudent bien évidemment.
Oui, et je pense que c'est compliqué d'avoir une quelconque certitude sur le sujet. La seule chose que l'on peut dire, c'est penser justement ce monde d'après, notamment sur la question des personnes âgées. Ça me tétanise, ça nous terrorise tous de savoir qu'effectivement on a laissé mourir des personnes âgées qui n'ont pas été visiblement acceptées dans les centres de réanimation, ou en tout cas dans les hôpitaux. Ça doit nous interroger sur la manière dont on considère et dont on traite aussi nos personnes âgées. Et c'est vrai que ce témoignage que vous venez de passer est assez bouleversant. Et j'imagine qu'il y en a des milliers et des milliers dans cette situation-là. On a des leçons à apprendre, je pense, sur le traitement de nos personnes âgées. Je sais que, pourtant, je vante pas souvent le modèle allemand, mais c'est vrai qu'en Allemagne, ils ont tellement investi dans le troisième et le quatrième âge que, sans doute, le nombre de décès, y compris des personnes âgées, a été beaucoup moins important. Et je pense que si on doit réfléchir à ce monde d'après, puisqu'Emmanuel Macron a demandé aux uns et aux autres, notamment au Parlement, de réfléchir à des dispositions importantes à prendre dans les années à venir. J'ai vu que Marlène Schiappa faisait des propositions sur le sujet de comment sur la question du congé proposé aux salariés pour pouvoir aller justement aider, accompagner, soigner parfois leurs parents ou leurs grands-parents. Je pense que c'est une société, je pense, vous savez, on utilise souvent les grands indicateurs de PIB, de croissance. Je pense que tout ça est devenu totalement obsolète et que je pense que on vivra dans une société reconnue comme étant une société riche si on a un système sanitaire parfait, si on a un système qui s'occupe de nos personnes âgées, si on a un système qui s'occupe des plus fragiles. Et je pense que ça devrait être une des grandes leçons de la période que l'on vient de vivre.
Céline Boisson, vous voulez intervenir sur le sujet ?
Non, je voulais juste dire que, en fait, quand on parle de déconfinement et qu'on dit qu'il faut accélérer le déconfinement, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à la société d'avant le 16 mars, c'est-à-dire sans les masques, avec un rapprochement physique et tout ça. Ce que je veux dire, moi, quand je dis que le déconfinement doit s'accélérer, c'est-à-dire, bien sûr, les gestes barrières, il faut les respecter pour longtemps. Bien sûr, la distanciation physique, il faut la respecter. Mais en revanche, il faut se remettre en ordre de marche. Alors, les EHPAD, je les mettrai effectivement à part parce que c'est une population fragile qu'il faut particulièrement protéger. Mais pour la partie des écoles, quand on voit que les classes sont limitées à 10 élèves, parfois 15 élèves, pour moi, ça me semble trop peu. Il faut pouvoir procéder peut-être à un roulement beaucoup plus régulier pour permettre à l'ensemble des élèves de retourner à l'école avant la fin de l'année pour qu'ils puissent psychologiquement finir l'année aussi.
François Ehrenweins, ce qui est perturbant peut-être aussi pour certains, c'est qu'en quelques jours, finalement, on est passé d'une extrême prudence à finalement ce discours aujourd'hui de bon, bah, allez, il faut un peu lâcher les chevaux, ça y est, l'épidémie n'est pas derrière nous, mais elle est en tout cas largement contrôlée.
Mais moi, je pense qu'il ne faut pas céder à une forme d'ivresse. Toutes les urgences qui ont été évoquées par mes collègues sont de bonnes urgences, et notamment la question de l'économie. Mais je pense que si on veut tirer le bénéfice de notre comportement raisonnable pendant près de 3 mois, il ne faut pas tout d'un coup basculer dans la fébrilité qui caractérisait le monde d'avant. Je pense que la sortie doit être progressive, raisonnée, et mesuré dans nos comportements, parce que sinon on accepterait par impatience de prendre des risques tout à fait inconsidérés.
François Baudonnet, une réaction sur le sujet ?
Oui, en ce qui concerne les EHPAD, on parle souvent du monde d'après. Moi, je me dis que si, une fois que la crise du coronavirus sera terminée, si on n'a pas eu ce grand débat national, justement, sur ce qu'on veut faire de nos personnes âgées, comment on veut les traiter, comment on veut nous traiter, parce qu'on le sera tous âgés, enfin, je nous le souhaite, en tout cas, est-ce qu'on veut, par exemple, continuer à mettre 50, 100, 150, parfois 200, jusqu'à 300 personnes dans un même bâtiment, des personnes qui sont dépendantes? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos aînés aujourd'hui et pour nous plus tard? Je crois que si on n'a pas eu ce débat, parce qu'on voit que quand il y a une crise sanitaire, quand le virus rentre dans un établissement comme ça, c'est terrible. Mais au-delà de ça, la vie quotidienne, même hors période de crise sanitaire, ça pose un problème de mettre ensemble des personnes qui sont toutes dépendantes. Ça pose un problème de vie quotidienne, évidemment. Est-ce que, voilà, si on n'a pas réussi à avoir un grand débat national et peut-être d'ouvrir des pistes pour l'avenir, alors je crois qu'on n'aura pas tiré les leçons du coronavirus.
Et après nos aînés, on va s'intéresser aux plus jeunes avec les vacances apprenantes. C'est dans la dernière partie des informés, juste après le fil info, puisqu'il est 20h50. Emmanuel Langlois.
La FCPE commence à mettre en garde les parents pour la rentrée de septembre. Si on ne trouve pas de vaccin d'ici là, le protocole sanitaire, même assoupli, ne permettra pas d'accueillir tous les enfants à l'école, estime sur France Info Rodrigo Arenas, le co-président de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Car ce matin, dans les colonnes du journal du dimanche, le professeur Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique chargé d'éclairer l'exécutif sur la pandémie, se disait favorable à des règles moins strictes à l'école, notamment pour les repas, les récréations ou le sport d'ici la fin du mois. Deux jeunes âgés d'une vingtaine d'années, mis en examen pour viol en réunion à Mont-de-Marsan dans les Landes. C'est une jeune femme, elle aussi âgée d'une vingtaine d'années, qui a déposé plainte. Les faits auraient eu lieu il y a un peu moins d'une semaine dans un lieu public. Les deux jeunes contestent ce viol. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, elle veut créer un comité de pilotage national pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. Le dispositif était devenu quasi impossible à mettre en œuvre selon des avocats. Et puis Rachida Dati qui appelle les électeurs d'Agnès Buzyn à voter pour elle pour la municipale du 28 juin. Dans une tribune publiée sur le site du Point, la candidate des Républicains à la mairie de Paris affirme être la seule à permettre l'alternance face à la maire sortante socialiste Anne Hidalgo.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Victor Matet.
La dernière partie des informés, les vacances apprenantes ou comment rattraper le retard après 3 mois sans école en travaillant cet été. On est bien loin de ce qui a bercé une partie de notre enfance. Et merci Jean-Michel Blanquer, 200 millions d'euros débloqués pour 1 million d'élèves au total. Vous y croyez, vous, à ces vacances apprenantes, Pierre Jacquemin ?
Bah, vous venez déjà de signaler effectivement le budget consacré, ça fait assez peu finalement par tête d'élève, mais quand même, pour revenir quand même un peu sur la jeunesse du déconfinement, notamment scolaire, je pense que le gouvernement porte une grande responsabilité en ayant fait notamment du volontariat parental l'une des clés du déconfinement, et je pense qu'on a considérablement accru les inégalités, même si le gouvernement, l'une des raisons de ce déconfinement progressif scolaire était justement le décrochage scolaire, on a bien vu que les décrocheurs n'étaient pas revenus dans les écoles, et c'est bien ce que les enseignants nous ont dit. Et donc, imaginez que ces mêmes décrocheurs, ou en tout cas ces mêmes enfants qui seraient les enfants les plus fragiles ou les plus en difficulté scolaire, imaginez qu'ils puissent être disponible et disposé à intégrer ces dispositifs, je n'y crois pas beaucoup. Par ailleurs, il y a toujours une forme, c'est Philippe Mérieux, le pédagogue Philippe Mérieux, qui disait que les enfants ont besoin de vacances pour apprendre autrement qu'à l'école, et je pense que c'est assez vrai, que l'école de la vie, l'école de l'apprentissage dans un quartier, de revoir les gens, d'être avec ses copains d'un quartier, des copains de la ville, c'est aussi comme ça qu'on apprend la vie, et j'ai le sentiment que ça fait un peu colo de pauvre. Il y a un effet assez stigmatisant finalement, je trouve, à vouloir créer ces vacances apprenantes dont le nom est d'une absurdité totale d'ailleurs. Mais bon, je sais qu'on règle pas le problème qui est le problème majeur de celui qui fait que des enfants ont décroché et qu'il faut tout faire pour que ces enfants-là puissent récupérer les enseignements qu'ils n'ont pas eus. J'espère
qu'en
que...
Qu'en pense la communicante que vous êtes, Céline Boisson, et sur le nom et sur le concept ?
Bah, sur le concept, je pense que c'est une très belle idée qu'il va falloir pérenniser en mettant beaucoup plus d'argent. Effectivement, 200 millions, c'est trop peu, sachant qu'on a bien vu que le gouvernement était capable de mettre des milliards dans d'autres domaines, et notamment auprès de grandes industries. Donc, pour ne pas sacrifier notre jeunesse, parce que je pense qu'on est en train de sacrifier quand même une génération et notre jeunesse, il faut mettre beaucoup plus. Première chose, il faut la pérenniser, c'est-à-dire il y a cet été et il y a après. Je pense qu'il faut mettre aussi les enfants quand même au travail, parce qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé. Enfin, moi, j'ai 2 enfants en primaire et au collège, donc je l'ai vu, ils ont travaillé, mais pas comme avant, et ils ont énormément souffert de ne pas être à l'école. Donc, les retrouver dans une autre forme d'école, je pense que c'est quand même une bonne chose. Et sur le nom, vacances apprenantes, bah, je trouve que c'est pas si mal que ça, parce que je pense qu'effectivement, il faut voir comment ça ça va être mis en place, mais on peut aussi apprendre en vacances et apprendre autrement, et ça dit bien ce que ça veut dire. Après, effectivement, il y a un enjeu de faire venir le plus d'enfants, et notamment ceux qui ont décroché, et ça, c'est un véritable enjeu, et j'ai pas forcément la solution pour pouvoir faire revenir ces enfants, même dans ces vacances apprenantes.
François Baudonnet, le gouvernement, en quelque sorte, cherche à réparer ses erreurs d'appréciation avec ses vacances apprenantes?
Oui, alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit d'abord que c'était une bonne idée parce que effectivement, il y a sûrement du retard à rattraper. C'est vrai que les enfants n'ont pas travaillé autant que lors d'une année scolaire normale, et on sait qu'il y en a qui ont particulièrement des problèmes, ce qu'on appelle les décrocheurs. Donc, je pense que c'était une bonne idée pour que tout le monde revienne en septembre avec un niveau minimum. Après, je crois que le diable se cache toujours dans les détails. Moi, il y a des choses que j'ai pas très bien comprises. Sur comment ça va fonctionner. Est-ce que ce sera obligatoire pour les enfants ou pas? Et puis, il y a aussi une autre question qui va se poser, c'est que pour faire fonctionner ces vacances apprenantes, il va falloir des professeurs. Et ça existe déjà, hein, visiblement, chaque année, mais là, il en faudra beaucoup plus, puisque l'objectif, c'est de concerner 1 million d'enfants. Est-ce que les professeurs qui ont déjà quand même beaucoup travaillé à distance, qui ont été quand même très perturbés par ce qui s'est passé, est-ce qu'ils vont accepter de venir travailler, je crois que c'est au début de l'été, jusqu'à la mi-juillet et à la fin du mois d'août. Voilà, donc c'est des grandes interrogations, donc une bonne idée comme ça au départ, après dans la mise en pratique, je me pose des questions.
Et on voit déjà, François Ehrenwein, que certaines grandes structures de colonies de vacances, par exemple, ne sont pas prêtes du tout à jouer le jeu.
Oui, ben, c'est un peu dommage, parce que l'enjeu me semble majeur. Et c'est pour ça que je pense que cette initiative de Jean-Michel Blanquer est une très bonne initiative. Surtout qu'elle vise d'abord, et c'est une aide qui est concentrée sur les familles modestes, non pas que tous les décrocheurs soient dans les familles modestes, mais en tous les cas, les écarts sociaux ont un effet sur l'accès à la connaissance, et je pense que c'est très bien que cet effort soit fait. Alors je suis d'accord. Le montant n'est peut-être pas suffisant, l'organisation n'est pas forcément complètement maîtrisée à partir de ce que j'ai vu, mais je pense que le gouvernement ait choisi de faire une offre aussi massive, puisqu'il est question de cibler 1 million d'enfants, ça me paraît quand même assez considérable, avec des colonies de vacances, des offres dans des établissements ouverts dans les territoires ruraux, ça me paraît être... en tous les cas, une réponse nécessaire à l'expérience qu'un certain nombre d'élèves viennent de vivre au collège ou à l'école.
Et transition toute trouvée, François Ehrenwein, en quelques mots, à la une de la Croix demain.
Ben, c'est un peu le sujet qu'on est en train d'évoquer. C'est du point de vue des profs, cette rentrée en pointillé. Il y a des disparités, des pratiques dans différents établissements, et les parents s'en rendent eux-mêmes compte, puisque l'accueil n'est pas le même partout. Et ça paraît un enjeu majeur.
Et ce sera donc à lire demain à la une de La Croix. Merci beaucoup François Ehrenwein, rédacteur en chef à La Croix. Céline Boisson, communicante, directrice associée de l'agence Nude. François Baudonnet, grand reporter à France Télévisions. On vous écoute avec le podcast Au comptoir de l'info, disponible sur franceinfo.fr. Et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Regard. Merci à tous les quatre. Les informés reviennent demain. Très bonne soirée à tous. L'info continue sur France Info.